Radio Okapi. Regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur la côté de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque vendredi à partir de 26h et samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la côté de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons ici au studio Nikez Kibel-Bel-Oka. Il est journaliste et il est éditeur du journal Les Coulisses. Il est auteur de plusieurs ouvrages, notamment Les rébellions rwandaises au Kivu de 1996 à 2024. Bonjour Nikez Kibel-Bel-Oka.
Bonjour Guy.
En ligne, Frédéric Kwamba, il est avocat, il est membre de la société civile et membre du conseil d'administration de l'ONG Afia Mama Asbel. Il est également avocat au barreau de Kinshasa Gombe et à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il est aussi membre du groupe d'intervention judiciaire de l'Organisation mondiale contre la torture, OMCT en sigle. Bonjour maître Frédéric Kwamba.
Bonjour monsieur Guy et bonjour à tous les téléspectateurs, auditeurs.
Merci. Aussi en ligne depuis la ville de Louvain-la-Neuve en Belgique, Timothée Tchaoumo-Soucha, il est spécialiste en politique internationale, il est coordonnateur et chercheur indépendant à Quelle Afrique, un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Il est aussi médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. Bonjour Timothée Tchaoumo-Soucha.
Bonjour Chéri, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi, regard sur l'actualité.
Merci, à tout de suite pour la rétrospective de cette journée d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur la côté de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de cette dernière jour de la semaine.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Capi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Nikez Kibel-Bel-Oka. Il est journaliste et il est éditeur du journal Les Coulisses. Il est auteur de plusieurs ouvrages, notamment Les rébellions rwandaises au Kivu de 1996 à 2024. Frédéric Kwamba, il est avocat, il est membre de la société civile et membre du conseil d'administration de l'ONG Afia Mama Asbel. Il est également avocat au barreau de Kinshasa Gombe à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il est aussi membre du groupe d'intervention judiciaire de l'Organisation mondiale contre la torture OMCT en sigle. Et en ligne depuis la ville de Louvain-la-Neuve en Belgique, Timothée Tchaoumo-Soucha, il est spécialiste en politique internationale, il est coordonnateur et chercheur indépendant à Quelle Afrique, un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Il est aussi médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir attaque des drones à Goma, Forum de Beni sur la paix et les EDF, et enfin, la Journée internationale de la femme célébrée le dimanche 8 mars. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet du nouveau rapport de Human Rights Watch sur la vague de disparitions forcées à Kinshasa. En effet, l'ONG internationale Human Rights Watch vient de publier un rapport sur la vague de disparitions forcées à Kinshasa. C'était mercredi 11 mars. Depuis mars 2025, les forces de sécurité congolaises sont responsables des nombreuses disparitions forcées à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, et dans ses environs, a déclaré Human Rights Watch. L'ONG dit avoir documenté 17 cas de personnes victimes de disparitions forcées ou portées disparues au cours de l'année passée et a reçu des témoignages crédibles de plusieurs cas supplémentaires. Bon nombre de ces personnes disparues ont été retrouvées souvent des mois plus tard en détention dans les locaux du Conseil national de cyberdéfense CNC en sigle. qui les a arbitrairement arrêtés et détenus en parallèle de la police nationale congolaise et de la garde républicaine du président, précise le rapport. Nikes Kibelbel Oka, comment vous réagissez au rapport de Human Rights Watch sur la vague des disparitions forcées ici à Kinshasa?
Oui, merci beaucoup Guy Maté. Je n'ai pas lu les rapports, je ne saurais pas aller dans les détails, mais tout ce que je peux dire, si on interpelle, il faut que les services puissent suivre quand même le respect des procédures pour ne pas détenir des gens arbitrairement. Et une fois qu'on s'est rendu compte que la personne interpellée et les faits qu'on lui reproche ne sont pas confirmés, on la laisse libre et retourner chez elle. Donc, il est toujours mieux de venir avec un document officiel, notamment un mandat ou une invitation à convocation pour éviter effectivement qu'on mette sur les dos des services des violations des droits de l'homme.
Merci Frédéric Kouamba. Certaines ONG nationales avaient déjà tiré la sonnette d'alarme au sujet de ces arrestations et disparitions forcées. Avec ces rapports de Human Rights Watch, vous ne pensez pas qu'il faille envisager des enquêtes pour tant soit peu clarifier ces dossiers?
Évidemment, Monsieur Guy Maté, nous avons toujours rappelé un principe fondamental. Aucune lutte contre l'insécurité, la cybercriminalité ou le désordre public ne peut se faire en dehors du cadre légal. Pourquoi? Parce que dans un état de droit, nous avons ce que nous appelons le socle même de reposer sur des procédures claires, contrôlées et vérifiables. Donc, insister sur la nécessité des enquêtes, c'est pour clarifier les responsabilités. Parce qu'à travers une enquête indépendante et crédible, qu'on arrive à savoir qui est réellement responsable. Parce que souvent les textes sont clairs, mais les textes ne sont pas appliqués par des machines qui sont dans la perfection. Mais ce sont des êtres humains qui commettent parfois des erreurs liées à leur propre désir de faire mal ou de faire souffrir et de violer la loi en vertu de pouvoir que la même loi leur confère. Donc nous devons mettre en avant l'importance du contrôle démocratique lorsqu'il s'agit de cas d'arrestation ou de poursuite. Donc les organes spécialisés comme le CNC doivent opérer dans un cadre légal strict. Donc la coordination entre les services doit être encadrée par la loi et supervisée par la justice. Donc on ne peut pas agir aussi sans se référer à la justice. Raison pour laquelle nous appelons à une réforme structurelle. Et quelle réforme structurelle? C'est-à-dire la formation des agents qui sont appelés à interpeller les autres citoyens. Donc, à renforcer des mécanismes de plainte, des protections des lanceurs d'alerte et des victimes. Donc, on ne peut pas accepter que les poursuites soient diligentées en dehors de ce qui est prévu par la procédure pénale, parce que la procédure pénale qui prévoit. Et aussi, nous devons avoir ce qu'on appelle une politique pénale. Un État normal ne manque pas cette politique. Et la politique pénale n'est pas là seulement pour le réprimer. C'est comme dans les domaines médicaux. On n'est pas là seulement pour s'attaquer aux maladies. Il y a ce qui vient en avant, c'est la prévention. On doit aussi avoir ce qu'on appelle les méthodes préventives lorsqu'on défend aux citoyens de commettre certains faits infractionnels. On doit commencer par protéger les mêmes personnes à ne pas tomber facilement dans la commission des infractions. Ce qui manque parfois chez vous, on est uniquement dans la répression. Merci. La répression n'apporte pas des solutions. C'est ce que dans mon introduction, j'ai dit, aucune lutte contre l'insécurité ou la cybercriminalité ne peut se faire en dehors du cadre légal.
Merci, Timothée Tchao Moussoucha. Quel pourrait être, à votre avis, le mérite d'un tel rapport?
Ce rapport a le mérite d'être comme un miroir. On va au miroir pour voir son visage et apporter des correctifs. Je crois que le service de cybercriminalité, le service de l'ANR, comme d'autres services, notamment de l'immigration, ont des OPJ qui peuvent mener des opérations d'activités d'arrestation. Mais lorsque ces arrestations sont opérées, ces services-là sont encadrés, il y a un cadre légal, juridique qui régit ces différents services et que donc ces services ne sont pas des services judiciaires à part entière. Ces services doivent diriger, les interpeller auprès de leurs juges compétents. C'est-à-dire, ça peut être dans le cadre de questions sécuritaires ou militaires. Voilà, il y a des juridictions de l'ordre civil et militaire. Et immédiatement, lors des arrestations, la Constitution garantit ce droit hein, comme étant inaliénable. Une personne doit être informée de ce droit, notamment droit à la visite. Que sa famille sache là où se trouve la personne, qu'il soit assisté par un avocat ou devant un avocat. Tout ça, c'est des violations à la fois de la Constitution, mais des autres lois réglementaires et que donc, oui, ces rapports viennent montrer au gouvernement qu'il y a des failles qu'il faut devoir corriger.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Moulerengo de Koffi Olomide. On se retrouve juste après. C'était Moulerengo de Koffi Olomide. On revient à l'actualité cette semaine. L'émotion est encore vive à Goma et les condamnations se multiplient quelques jours après la frappe des drones qui a touché un quartier résidentiel de la ville situé dans la province du Nord Kivu, occupé depuis plus d'un an par l'AFC-M23. L'attaque est survenue mercredi 11 mars et a coûté la vie à 3 personnes, dont une employée des Nations Unies travaillant pour l'UNICEF, suscitant une onde de choc en RDC comme à l'international. De nombreux dirigeants dénoncent des violences indiscriminées, rappellent l'obligation de protéger les civils et exigent le respect du droit international humanitaire. Emmanuel Macron, président français, affirme que protéger les humanitaires est une obligation absolue. Les États-Unis, quant à eux, dénoncent des attaques inacceptables contre les civils. La Belgique condamne des violences aveugles. L'Union européenne parle d'une attaque abjecte contre les civils. Et l'UNICEF est dans la consternation et appelle urgemment à la protection des humanitaires. Timothée Tchaoumo-Soucha, vous êtes spécialiste en politique internationale, vous êtes coordonnateur et chercheur indépendant à Quelle Afrique, un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Vous êtes aussi médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. Vous avez souhaité, n'est-ce pas, nous parler de cette attaque au drone dans la ville de Goma. On vous écoute.
Ok, j'ai choisi le thème de la situation de Goma tout en présentant d'abord les condoléances à ces 3 familles. Et même aux autres blessés, la française et ainsi que nos compatriotes congolais qui sont tombés dans cette frappe de drone. J'ai choisi ce thème, pourquoi ? Parce que à l'ère du numérique, puis de l'intelligence artificielle, l'invention de drones vient révolutionner le monde, que ce soit dans la protection de l'environnement, dans l'agriculture, dans la recherche, même sur le plan militaire. Et donc le drone devient une arme qui, comme je l'ai toujours dit ici, une arme de 3D. J'entends dans le volet militaire, une arme de 3D, actuellement c'est des nouvelles armes qui ont l'auto-déportation, l'auto-détection et une destruction. Donc on n'a plus besoin de déplacer des troupes militaires pour une opération. On peut aller en zone ennemie, frapper et retourner à la base. Alors j'ai choisi ce thème parce que j'ai lu différentes réactions, que ce soit du M23, les communiqués du gouvernement, mais aussi d'autres réactions que vous venez de lire. On se rejette des responsabilités. D'une part, il y a le M23 qui estime que ce sont les leaders du M23 qui ont été visés parce que c'est un quartier résidentiel, que l'ancien président Joseph Kabila aurait une maison à 100 mètres, là où ce drone a frappé, et que c'était une sorte de bavure, et que c'était les leaders du M23 qui étaient visés. Et Kinshasa, de son côté, avec les différents communicateurs non officiels mais aussi officiels, estime qu'il faut une enquête pour rétablir les responsabilités, parce que Kinshasa, de son point de vue, estime qu'il n'a pas intérêt, que ceci pouvait être un crime qui a été commis par le camp du M23 soutenu par le Rwanda. Dans le contexte où on se rejette de responsabilité, il va falloir qu'il y ait de la lucidité en ce qui concerne l'utilisation de drones. C'est vrai que les drones nous apportent énormément de bénéfices. Il y a beaucoup d'avantages lorsque nous nous lançons dans certaines opérations, par exemple pour les journalistes, les photographies actuellement, etc. Mais dans le volet militaire, même civil en République démocratique du Congo, il faudrait qu'il y ait une réglementation en matière d'utilisation de drones, parce que sans encadrement juridique clair, nous allons tomber, comme dans des cas d'espèce, dans des crimes, parce que là, ça peut être une sorte de crime de guerre. Nous sommes dans une zone de guerre. Premier élément. Deuxième élément, lorsque nos États achètent le drone est un dispositif très compliqué, dont certains procédés ne sont pas encore en mesure de détecter les drones en dehors de satellites, et qu'il est facile, je recommanderais d'ailleurs ce côté-là, qu'il y ait une enquête indépendante qui vient d'ailleurs, notamment de la France, des États-Unis. Les États-Unis sont alliés de la République démocratique du Congo sous Félix Tshisekedi. La France est aussi partenaire de la RDC dans différents domaines, mais aussi du Rwanda. Et que donc il y ait la clarification, parce que par satellite, on peut retracer le centre de départ de drones. Il faut savoir que le drone, je prends ici dans le cas de drone militaire, il y a 2 pilotes qui sont au sol à partir d'une base, ils ont une cabine. Il y a l'autre qui dirige, qui fait le pilotage, c'est-à-dire qui fait voler cet avion non assisté, je veux dire non assisté physiquement, sans pilote à l'intérieur. Il y a un pilote, mais aussi il y a celui qui s'occupe des lasers, qui s'occupe des photographies et éventuellement des largages des bombes. Et pour votre information, il y a beaucoup, beaucoup de types de drones. Il y a des drones de catégorie civile. Je parlais tantôt de l'agriculture, du domaine médical, etc. Mais il y a des drones de type militaire. Et dans le cadre des drones de type militaire, il y a énormément de sous-groupes. Et chaque jour qui passe, il y a des nouvelles séries de drones qui sont mises sur le marché. De sorte que, venant de l'Afrique, on risque d'acheter des drones qui répondent au climat, aux quatre saisons, par exemple, le drone qu'on utilise en Ukraine lors de la... c'est-à-dire conflit entre la Russie et l'Ukraine, les drones qui sont utilisés en été ne sont pas les mêmes qu'on utilise en hiver.
Timothée.
Les drones qu'on utilise en printemps ne sont pas les mêmes drones qu'on utilise en automne.
Timothée,
et lorsqu'on vient de l'Afrique, nous avons généralement deux climats, la saison sèche et la saison de pluie. On achète un drone quasiment qui est de la catégorie qui concerne par exemple l'hiver. Ben, ce drone-là n'aura pas fait l'effet.
Timothée.
Parce qu'il peut avoir... Oui.
Oui, s'il faut revenir sur l'attaque des Goma, contrairement aux précédentes attaques aux drones dans cette guerre, qui sont souvent revendiquées par un camp ou un autre, cette attaque n'a été revendiquée par aucune partie. Comment vous expliquez cela?
Oui, mais parce que il y a un élément qui vient s'ajouter. Il s'agit de l'humanitaire, la française qui a été tuée. Et que donc, de ce fait-là, il n'y aura pas victoire, comme qui dirait, bon, voilà, nous avons frappé Goma et tout ça, parce que là, il y aura un établissement de responsabilité. Voilà pourquoi tout le monde se retient. Parce que il faut noter qu'en début de cette année, il y a la recrudescence et l'utilisation, la mise en utilisation des drones, que ce soit à Minembwe, que ce soit à Masisi, que ce soit à Kisangani aussi. Il faut savoir que le Rwanda détient énormément de drones, le Burundi en a commandé, la RDC en possède, et donc le M23 qui bénéficie de la logistique du Rwanda en utilise aussi. Et que donc, c'est pour ça que j'ai dit tantôt, il faudrait une enquête. L'État congolais qui parle d'une enquête, mais l'État congolais ne sera pas mené une enquête directement à Goma, une zone où il ne dirige pas. Donc, la RDC peut, si elle ne se rapproche de rien, se référer aux satellites des États-Unis qui se trouvent dans la région des Grands Lacs et qui
Merci.
Verra d'où est parti ces drones.
Merci.
La France, qui a son qui a été tué, peut aussi venir à, légitimement à ces enquêtes.
Merci.
Il y aura la vérité.
Merci, Nikez Kibelbel-Oka. Vous êtes journaliste, vous êtes éditeur du journal Les Coulisses. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, notamment Les rébellions rwandaises au Kivu de 1996 à 2024. Entre les deux belligérants, l'AFC-M23 et les FRDC, qui a intérêt aujourd'hui à procéder à une telle frappe?
Est-ce que c'est un problème d'intérêt? C'est ça la question. Et comme l'a souligné le prédécesseur, nous avons assisté à des pluies de bombes, des drones. Il y a celui qui a tué Willy Ngoma, parce que au moins ça a été dit publiquement. Il y a des drones qui sont tombés sur l'aéroport de Bangoka, Kisangani. Et il y a eu des déclarations. Le gouvernement congolais n'a jamais revendiqué la mort de Willy Ngoma. Par contre, le M23 a mis ça sur le dos du gouvernement congolais. C'est comme le M23, l'FCM23, qui avait officiellement dit, notamment dans les attaques de Kisangani, qu'il ciblait le centre des opérations. Alors, aujourd'hui, il y a ce drone qui tombe en plein milieu à les quartiers qu'on appelle RVA Monusco, donc le quartier où le plus grand bâtiment c'est celui de Madame Olive Lembe. Le drone tombe, il y a un dégât. Est-ce que c'est un dégât collatéral? Parce que si réellement le drone vient du côté des FRDC, c'est-à-dire qu'ils ont visé, comme l'ont dit le M23, disons les FRDC veulent décapiter l'exécutif du M23. Donc si le drone vient de la RDC, disons les FRDC, c'est-à-dire le drone a été détourné de son objectif initial. Donc la Française qui est décédée avec les deux autres font partie des dommages collatéraux. Bon, on ne peut pas s'en féliciter, mais c'est au fait ça. Alors, il est difficile, parce que dans une enquête, on ne peut pas être en avance sur le planificateur de l'enquête. Sinon, vous avez été vous-même dans la planification. Le drone est tombé sans enquête au préalable. On ne peut pas d'emblée dire que c'est telle ou telle partie qui a tiré. Tout ce que nous savons, les Nations Unies ont demandé à ces experts de cadrer l'endroit pour effectivement récupérer les débris et au besoin faire des investigations pour donner la provenance. Mais nous sommes dans un milieu aussi, dans une zone où il y a aussi des mercenaires. Alors on ne sait pas qui contrôle qui et il est difficile à l'heure qu'il est, il n'est pas impossible, mais il est difficile à l'heure qu'il est de déterminer la provenance du drone. Et à qui profitent les crimes? C'est ça aussi la question. Mm-hmm. Vous savez, nous avons connu des gens qui ont été tués à l'interne. On peut citer le cas de notre regretté confrère Magula Palou, qui a été tué à Goma. En tout cas, à Goma, on n'a pas dit que c'est le gouvernement qui l'a tué. Jusque-là, personne n'a dit qu'il l'a tué. Il y a aussi d'autres cas. Donc, la question à qui profitent les crimes reste pendante parce que nous ne savons pas si réellement la cible, je doute que la cible soit l'humanitaire qui est décédé, mais si la cible est l'humanitaire, à ce moment-là, nous devons nous poser des questions. Qui a intérêt à tuer l'humanitaire? Parce qu'en réalité, officiellement, il ne fait pas partie de la guerre.
Même sur le mur de la maison, il y a des impacts et des balles, et c'est pourquoi il y a certaines personnes qui commencent à parler des présumés drones. Donc on n'est pas certain qu'il s'agit effectivement des drones.
Alors, dans tout ce que nous avons appris, il y aurait deux drones. Le premier drone serait tombé dans le lac. Ça a été dévié de sa trajectoire pour finir dans le lac. Alors, il y a une possibilité de croire qu'après le premier drone qui est tombé dans le lac, que des gens puissent attaquer à l'arme, parce que les impacts de balles, comme vous le soulignez, ne peuvent pas provenir de... On n'est pas spécialiste de drones, mais ne peuvent pas vraiment provenir de drones. Il pourrait y avoir une attaque qui a suivi le drone, après avoir échoué dans le lac, une attaque terrestre ou une attaque d'une infanterie qui a suivi le drone et qui a visé l'humanitaire. C'est une possibilité. Mais comme je dis, dans une investigation, on ne peut pas être en avance par rapport à celui qui a commis les crimes. Autrement, on a participé au crime.
Merci Frédéric Kwamba. Vous êtes avocat, vous êtes membre de la société civile et membre du conseil d'administration de l'ONG Afia Mama Asbel. Vous êtes également avocat au barreau de Kinshasa Gombe et à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous êtes aussi membre du groupe d'intervention judiciaire de l'Organisation mondiale contre la torture OMCT en sigle. Cette attaque vient rappeler quoi aussi bien à la communauté nationale qu'à la communauté internationale, Frédéric Kwamba?
Oui, en rapport avec cette situation, nous rappelons d'abord que même dans les conflits les plus asymétriques, ce droit international humanitaire constitue la boussole. Donc tous les actes que l'on pose dans les conflits, il faut préalablement tenir compte du droit humanitaire. Alors, ce qui s'est passé à Goma nécessite une réponse, et la réponse doit partir des enquêtes, parce que la revendication, comme venait de le dire mon prédécesseur, il n'y a personne qui a revendiqué, ou l'attribution d'une telle attaque nécessite des éclaircissements, parce que les conséquences, lorsque tout le monde est éclairé, deviennent souvent lourdes. Comme la RDC, donc le gouvernement congolais, qui a réclamé des enquêtes indépendantes, moi je trouve que c'est la démarche la plus essentielle. Parce que dans ces contextes où la technologie accélère la violence, seule la transparence permet d'établir des faits, de protéger les civils et de restaurer la confiance. Parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas, nous, en tant que civils, identifier le type de drone. Nous avons parfois des manifestations où nous voyons des drones au-dessus de nous. Et comment les identifier si nous n'avons pas des informations précises? Et si nous n'avons pas aujourd'hui des textes qui régissent la protection spéciale de notre espace aérien en rapport avec l'utilisation des drones? Parce que ces textes n'existent pas. Dans les milieux urbains, on voit souvent des drones. On ne sait pas les identifier. Est-ce que ceux qui le font circuler ont des autorisations? Est-ce qu'il existe un service spécialisé pour identifier les types de drones dans notre ciel? On ne le sait pas. Donc à ce stade, nous pensons qu'il faut des enquêtes pour nous permettre d'être fixés sur ce qui était réellement passé. et nous nous réservons de mettre nos points de vue d'une manière directe, parce que quand une enquête est ouverte, nous sommes dans l'obligation de nous taire, mais que les enquêteurs nous apportent la vérité, c'est tout ce que nous pouvons attendre en tant que civil.
Merci, chères auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. C'est dimanche 15 mars, c'est la date anniversaire de Michel Mavatiku Vissi, alias Michelino Mavatiku. C'est célèbre guitariste, auteur, compositeur, arrangeur congolais. Il est l'un des guitaristes virtuoses de la musique congolaise moderne. À l'occasion donc de cet anniversaire, nous allons écouter l'un de ses classiques intitulé Salima, sorti en 1975 dans l'orchestre Ok Jazz. Et on écoute donc Salima et on revient juste après.
Oh, Salima, mo pe mo mo va e to vela.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur la toute la semaine. Je rappelle que chaque vendredi à partir de 21h et samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la toute la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet du nouveau rapport de Human Rights Watch sur la vague de disparitions forcées à Kinshasa. Nous avons également analysé l'attaque des drones à Goma. Pour participer à cette émission, Nikèze Kibelbel-Oka, il est journaliste, il est éditeur du journal Les Coulisses, il est auteur de plusieurs ouvrages, notamment Les rébellions rwandaises au Kivu de 1996 à 2024. Frédéric Kwamba, il est avocat, il est membre de la société civile et membre du conseil d'administration de l'ONG Afiamama Asbel. Il est également avocat au barreau de Kinshasa Gombe à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il est aussi membre du groupe d'intervention judiciaire de l'Organisation mondiale contre la torture ONCT en sigle. Et en ligne depuis la ville de Louvain-la-Neuve en Belgique, Timothée Tchaoumbo Soucha, il est spécialiste en politique internationale et il est coordonnateur et chercheur indépendant à Quelle Afrique, un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Il est aussi médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. Clôturé mercredi 25 février à Beni, au Nord Kivu, le forum provincial consacré à la problématique des forces démocratiques alliées ADF en sigle s'est achevé sur une série d'engagements jugés forts par les participants. Autorités politico-administratives, forces de défense et de sécurité, leaders communautaires et acteurs de la société civile ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer la lutte contre ces groupes armés actifs dans la région. Au terme des travaux, les participants ont salué les efforts des forces armées de la République démocratique du Congo FRDC menée avec l'appui de la MONUSCO et de l'armée ougandaise UPDF dans le cadre des opérations conjointes contre les ADF. Les assises ont mis en avant les rôles cruciaux des populations locales dans la lutte contre l'insécurité. Les participants ont insisté sur l'importance du partage en temps réel des informations par les citoyens afin de faciliter les interventions des forces de sécurité. Nikèze Kibelbel-Oka, vous avez souhaité nous parler du forum de Beni sur la paix et les ADF. On rappelle que le forum des trois jours s'est clôturé le 25 février dernier. Et pourquoi vous souhaitez en parler aujourd'hui, trois semaines après?
Oui, merci Guy Maté. Pourquoi nous souhaitons en parler? Parce que d'abord, après 12 ans des opérations Sokola 1, le forum a été tenu et nous remercions le gouverneur des provinces, le général-major Évariste Kakule-Somo d'avoir pensé à cela. Pourquoi nous voulons en parler? Parce que pendant 12 ans, la population, la communauté ou les communautés ont douté de l'identité de l'ennemi. Et que lors du forum, l'unanimité sur l'identité de l'ennemi et sur son mode opératoire ont été trouvées. Aujourd'hui, les communautés sont conscientes que ceux qui massacrent, ce sont des islamistes. Et qu'il faut un mariage civilo-militaire. Ce mariage a pratiquement, disons, a été, si vous acceptez le terme, dissous à partir du massacre du 2 octobre 2014. Parce que le mariage avait eu lieu au départ. Et parce qu'on a attribué le massacre au FRDC, le mariage a été pratiquement dissous. Aujourd'hui, tout le monde comprend. Parce qu'après plus de 15 000 personnes tuées par les MTM, après près de 7 000 motos incendiées, 32 000 habitations et boutiques brûlées et près de 3 000 militaires FRDC tués, sans parler des casques bleus de la MONUSCO. On se souvient des 15 Tanzaniens des FIB tués au pont Semuliki et tant d'autres. Aujourd'hui, au moins, tout le monde parle le même langage, tout le monde reconnaît l'ennemi. Et cela peut aider effectivement à la solution. Mais il y a un autre point que nous avons, parce que j'ai participé au forum, il y a un autre point dans les résolutions, il est impérativement demandé que les trois forces sur le terrain, c'est-à-dire le FRDC, l'UPDF et la MONUSCO, puissent travailler ensemble. Parce qu'on a assisté à des duos. Les FRDC avec l'UPDF et pas avec la MONUSCO. Les FRDC avec la MONUSCO, pas avec l'UPDF. Mais les participants ont demandé à ce que les trois forces coordonnent les opérations. Et ça, c'est très important.
Et donc, il faut qu'il y ait un autre accord qui soit signé pour consacrer la collaboration de ces trois forces.
Effectivement, là, nous entrons dans les procédures juridiques, mais la population, les participants exigent que les trois forces puissent travailler ensemble. On a aussi exigé la réadaptation du planning de la lutte. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez Sokola 1, Sokola 1 géographiquement n'existe plus. Sokola 1 commençait à Kanyabayonga, ça s'est arrêté à Eringeti. Aujourd'hui, une partie du sud, Lubero, est occupée par l'AFM-23. Mais l'ennemi qui était concentré dans le triangle Kamango, c'est-à-dire Watalinga, Eringeti, Tutsobo et Bacho, donc Mwalika, aujourd'hui, l'ennemi est dans deux provinces. Il est à Mambasa, Irum, donc dans l'Ituri, il est même vers Butembo-Lubero. Et vous avez appris que récemment, il y a eu, les FRDC ont démantelé trois de ces positions. Un autre phénomène, c'est que il faut, dans la déradicalisation des gens récupérés, que la déradicalisation se fasse au Congo et non en Ouganda. Et que le gouvernement congolais puisse créer un centre de déradication à Beni. Parce qu'il faut comprendre, les gens qu'on sort de la forêt, qu'est-ce qu'ils amènent comme information? C'est des banques de données très importantes. Mais pour qu'ils sortent dans leur tête le djihadisme, il faut qu'ils soient déradicalisés. Mais un autre phénomène, ça c'était ma demande, que la communauté islamique participe à la sensibilisation dans les opérations. Parce que les ADF disent qu'ils sont des musulmans, qu'ils sont des vrais musulmans. Alors nous devons demander aux musulmans, à la COMICO, de participer à la sensibilisation pour arrêter l'hémorragie. Donc ça, ce sont des faits qui ont émaillé les recommandations, mais il faut aussi dire une chose très très importante, qu'aujourd'hui, on demande cette collaboration avec la population parce que le renseignement ne peut être fourni que par la population. Et il a été démontré que dans des opérations, dans des guerres asymétriques, l'armée ne participe qu'à 30%. Donc les 70% qui restent, c'est la population.
Justement, par rapport à cette question précise, la société civile a toujours dit que la population a toujours fait sa part, dans ce sens que chaque fois quand il y a des attaques, la population alerte. Mais c'est souvent les forces de sécurité qui ne tiennent pas compte des alertes de la population. Et là, on sent que les mariages que vous avez évoqués ici, civilo-militaires, apparemment ces mariages ont été rompus, on ne sait pas pourquoi.
Le mariage a été rompu parce que lorsque nous avons parlé de la théorie des abeilles, c'est-à-dire dans la théorie des abeilles, on n'attaque pas les abeilles parce qu'on va profiter du miel. C'est ce qui s'est passé pendant beaucoup de temps. La communauté a vécu avec les ADF en disant il ne faut pas les déranger, sinon ils risquent de nous attaquer. Mais la théorie des abeilles inversée, c'est quoi?
On lance les opérations, les abeilles sont éparpillées, commencent à piquer la population. Et alors, lorsqu'on arrive à cette deuxième théorie, la population ne comprend rien. Et il faut dire aussi que les leaders locaux n'ont pas aidé la population à comprendre qu'il faut soutenir. Parce que lorsque les opérations ont commencé, les pisteurs, c'était la population. Mais lorsque les massacres ont débuté dans les agglomérations, les discours, c'était quoi? Les FRDC tuent. Et à ce moment-là, il y a eu rupture de contrat social armé et population. C'est pourquoi aujourd'hui que la population a compris que l'ennemi vit dans la population. Parce que Guy, vous allez vous rendre compte que les ADF suivaient à la minute près tout ce qui s'est passé. Ils faisaient accompagner des communications, même vidéo. Et d'ailleurs, à la fin, ils ont même dit, en riant un peu, ils ont fait une vidéo contre le gouverneur en disant, vous n'allez pas nous vaincre, nous allons vous mettre KO. Donc, ils suivaient tout. Cela signifie que l'apport de la population, ils ont des informateurs, ils sont, c'est le cancer métastasé. C'est-à-dire qu'il vit dans la population.
Alors, il faut faire un effort pour renforcer ces mariages civilo-militaires.
Il faut effectivement étudier les mécanismes de renforcement des mariages civilo-militaires. Nous, nous disons, il faut faire le contre-terrorisme, parce que jusque-là, l'armée fait l'anti-terrorisme. Vous voyez, l'armée suit l'ennemi.
C'est quoi la nuance?
La nuance, c'est que quand vous faites l'anti-terrorisme, vous suivez l'ennemi. Vous laissez à l'ennemi le temps de poser des actes, et vous venez après les actes. Vous voyez, j'ai dit que... Vous subissez. Vous n'anticipez pas, parce que l'ennemi était dans un triangle bien précis. Aujourd'hui, l'ennemi amène les forces vers d'autres régions, parce que les forces sont derrière. C'est comme les chasseurs qui suivent les gibiers. Par contre, le contre-terrorisme, vous prenez possession de la population. Avec la population, vous luttez contre les réseaux dormants et les réseaux actifs, vous luttez contre les cloisonnements et vous luttez contre tous ceux qui donnent des informations. À ce moment-là, vous neutralisez l'ennemi.
Merci Frédéric Kouamba. Lors de ces forums de Goma, l'armée avait estimé qu'il faut des opérations multidimensionnelles pour combattre les ZDF. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Peut-on envisager des éventuelles négociations avec ces ZDF?
Oui, moi je pense que c'est une question d'approche. C'est-à-dire au début, il y avait cette approche qui était strictement militaire. Et maintenant, nous devons passer d'une approche strictement militaire à une stratégie intégrée, donc qui mêle au même moment la sécurité, la justice, la gouvernance locale, le développement, mobilisation communautaire. Et dans tout ça, on ne peut pas, moi je pense que ce genre de guerre ne peut pas s'achever si l'État ne se parle pas. Parce que les déclenchements de ce genre de conflits reposent sur certaines raisons qu'on ignore au début. Mais au finish, on comprend que en dialoguant avec la partie en face, on peut trouver une solution qui ne crée pas beaucoup trop de dégâts dans la population comme c'est le cas. Donc, les résolutions adoptées dans ces forums, pour moi, montrent que la solution pour la RDC ne peut être hybride, coordonnée et durable. Comme je l'ai dit, le renforcement de la sécurité de manière coordonnée, la restauration de la confiance entre les civils et les militaires, la justice, parce qu'on ne peut pas contourner la justice, la gouvernance et le développement. Dialoguer n'est pas exclu parce que nous sommes en présence d'un conflit. Et ce conflit-là est défini de plusieurs manières. Mais la meilleure approche, elle est de pouvoir échanger ça.
Merci, Timothée Tchao-Mosucha. Quand vous êtes dans le Grand Nord du Nord Kivu, la population salue les travaux des UPDF contre les ZDF. Cependant, lorsque vous êtes en Ituri, les gens semblent déçus, n'est-ce pas, par la prestation des UPDF contre les ZDF. Comment on peut comprendre cela?
Cette situation doit être prise très au sérieux. Aussi dans l'approche, parce que c'est les mêmes unités qui mènent des opérations, ben il faut voir aussi l'angle de l'exercice géopolitique, de l'influence géopolitique que voudrait mener l'Ouganda en République démocratique du Congo, et que donc, quelque part, cela met un petit peu en difficulté la cohabitation entre ces populations, d'abord l'Ituri avec l'UPDF, et à la différence de celles qui sont à Goma avec les différentes autorités qui sont là. Deuxièmement, il faut tenir aussi compte des moyens, parce que donc, il y a ça à balayer, carrément l'ensemble des questions, mais il y a aussi un problème de logistique qu'il y a au sein de nos unités de police et de l'armée. Il n'y a pas assez de moyens qu'on leur donne. Et lorsqu'il y a des moyens, qui s'accompagnent énormément aussi de différents autres services et des renseignements au sein de la population, parce que Lucas a très bien souligné le fait qu'il faut, dans le cadre d'une guerre civile, je veux dire asymétrique, des conflits comme ça asymétriques, il faut absolument l'implication des populations. Un troisième ou dernier élément que je pourrais soulever, c'est le contrôle des frontières. Ça veut dire qu'entre 40 et 60 millions d'Africains sont en train de descendre la fuite du Sahara avec les conditions climatiques devenues très difficiles. Et la porosité de nos frontières, c'est que, voilà, il n'y a personne qui contrôle ces frontières-là. Et du coup, il y a, vous savez, la guerre en Centrafrique, nous avons entendu le Soudan, nous avons. Et effectivement, le Tchad aussi. Donc nous sommes entourés de zones conflictogènes, de zones rouges où les islamistes. Ils sont jusqu'au niveau de la Tchad, hein, ont énormément leur base. Et donc, oui, le contrôle des frontières, nous parlions de drones tout à l'heure, hein, il y a lieu d'acheter des drones de reconnaissance qui pourra être mis en contribution pour neutraliser ces groupes. Mais cela ne se fera qu'avec l'appui, l'accompagnement, la participation effective de différentes couches de la population, dont notamment les musulmans eux-mêmes, mais aussi les populations civiles.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Mombasa de Lipois Lipois et on se retrouve juste après.
bolisa bango ndenge bolingo ezali nasili kaka pamba na kombo ya mbanda e ntango bobimaka e ngai mpe na ndako nalobaka te mpo na soni elekanga mama yeye mama yeye motema e.
C'était Mombasa, cette célèbre chanson de Lipois Lipois. Je rappelle que nous avons dans cette émission Nikèze Kibelbel Oka, il est journaliste et il est éditeur du journal Les Coulisses. Il est auteur de plusieurs ouvrages, notamment des rébellions rwandaises au Kivu de 1996 à 2024. Frédéric Kwamba, avocat, il est membre de la société civile et membre du conseil d'administration de l'ONG Afia Mama Asbel. Il est également avocat au barreau de Kinshasa Gombe à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il est aussi membre du groupe d'intervention judiciaire de l'organisation mondial contre la torture OMCT en sigle, en ligne depuis la ville de Louvain-la-Neuve en Belgique, Timothée Tchaoumbo Soutcha. Il est spécialiste en politique internationale. Il est coordonnateur et chercheur indépendant à Quelle Afrique, un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Il est aussi médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, souligne que dans plusieurs pays, la loi continue de limiter profondément les droits fondamentaux des femmes. Il a ainsi réagi à marge de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année. Antonio Guterres a signalé que dans plus de 40 État, des femmes ont l'impossibilité de posséder des biens ou d'hériter au même titre que les hommes et sont interdites de travailler ou de voyager sans l'autorisation de leurs conjoints. Ces femmes subissent des restrictions dans les droits de divorcer et l'absence des reconnaissances du viol conjugal encore non criminalisé dans ces pays. Le secrétaire général de l'ONU a par ailleurs dénoncé l'obstacle auquel font face les femmes face à l'accès à l'éducation notamment. Même dans les pays où des protections existent, les femmes peinent à accéder à la justice en raison des discriminations persistantes ou d'une faible application des lois, a souligné Antonio Guterres. Frédéric Kwamba, vous avez souhaité nous parler de la Journée internationale de la femme qui était célébrée le 8 mars dernier. On vous écoute.
Oui, j'ai voulu parler sur la Journée internationale de la femme parce que, au regard du défi actuel, nous avons intérêt à rappeler le sens originel du 8 mars pour le différencier d'une fête folklorique, comme c'est souvent le cas, mais une journée de mobilisation nationale pour l'égalité, la dignité et la justice. Ça doit être et demeurer un moment de mettre en avant les réalités congolaises pour le candidat RDC. Et les réalités congolaises, nous les connaissons, les cas des violences basées sur le genre, la sous-représentation des femmes dans les instances de décision, les obstacles économiques et éducatifs, comme vous venez de le dire, et l'impact disproportionné des conflits sur les femmes. C'est un moment de valoriser les progrès et les initiatives locales. Nous parlons des femmes leaders, des entrepreneurs, des activistes, etc. C'est un moment de présenter des programmes communautaires concrets. Constater, par exemple, sur le plan de la législation, s'il y a eu des avancées. Par exemple, nous prenons le cas de la loi électorale révisée, où la femme est reléguée dans la catégorie des personnes vivant avec handicap. Et ça passe aux yeux de tout le monde, et cette loi demeure comme ça. La faveur faite, par exemple, aux partis politiques qui déposent les listes paritaires, au lieu d'en faire une obligation avec toutes les conséquences. Et cette loi ressemble juste à une faveur que l'on fait à certains partis politiques. Ceux qui vont déposer les listes paritaires ne paieront pas de la caution. Donc pour dire que les partis politiques qui ont beaucoup plus de moyens peuvent ne pas aligner des femmes comme candidates, par exemple. Donc ces éléments-là doivent être révisés. C'est ça le moment du 8 mars. C'est un moment où on appelle à des engagements concrets. Par exemple, sur les budgets sensibles au genre, l'application stricte de lois qui existent, parce que nous n'allons pas dire que notre arsenal juridique est totalement pauvre. Nous avons des lois qui défendent et qui soutiennent le droit de la femme, en commençant par la Constitution elle-même. Mais nous devons, le 8 mars, révisiter, essayer de voir si nous avançons ou nous reculons.
Merci.
Donc la célébration du 8 mars devrait être une journée de commémoration, oui, mais surtout des réflexions et d'évaluation.
Merci, Nikes Kibel-Bel-Oka. Justement, s'il faut révisiter, s'il faut évaluer, n'est-ce pas, cette lutte qui est menée depuis plusieurs années dans ces pays pour la promotion des droits des femmes, qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui?
Oui, on a quand même franchi beaucoup d'obstacles ont été levés. On peut se souvenir qu'à l'époque, on donnait priorité aux garçons dans des familles pour étudier. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est vrai, la lutte, elle est longue, elle est permanente, elle est quotidienne. Le 8 mars ne devrait pas être spécifique, selon mon entendement, parce que le combat, il est régulier, il est quotidien. Il faut que chaque jour qui passe, que la femme d'abord, et les hommes, l'homme et la femme puissent dire, est-ce que nous arrivons à atteindre une certaine parité, une certaine égalité dans presque tous les domaines.
Donc l'évaluation doit se faire tous les jours.
L'évaluation doit se faire.
C'est une lutte de tous les jours.
Une lutte de tous les jours, parce qu'au fil des temps aussi, il y a des femmes qui deviennent de plus en plus libres. On ne doit pas attendre le 8 mars. Et rester branché sur le 8 mars, c'est fausser pratiquement toute la lutte de la femme. Aujourd'hui, la femme joue un très grand rôle dans la vie quotidienne, notamment lorsque nous voyons dans le soutien, même le soutien aux familles. Aujourd'hui, ce sont les mamans qui soutiennent, dans la plupart des cas, beaucoup de familles. Et donc, il faut une prise de conscience régulière et journalière. Ce n'est pas seulement le 8 mars. Mais c'est vrai que le chemin, il est long. Mais il faut dire qu'on a quand même franchi de grands pas. Réduire la lutte ou l'émancipation de la femme sur les axes de harcèlement, moi, je pense que c'est réduire vraiment la dignité même de la femme. Parce qu'il faut, dans tous les domaines, à l'école d'abord, si toutes les filles peuvent étudier comme les garçons, parce qu'il y a des filles qui brillent même plus que des garçons. Et dans tous les domaines, aujourd'hui, on trouve des femmes ou des étudiantes, même en polytechnique, qui étaient à l'époque réservées uniquement aux hommes. Et donc, dans toutes les filières, il faut apprendre à la femme, à la jeune fille, qu'elle a autant d'atouts que les jeunes garçons, et il faut se défendre d'abord à partir des atouts qu'on a. Développer ces atouts-là, et le reste viendrait.
Merci Timothée Chaoum Osucha, nous allons finir cette émission avec vous. Hein. Vous avez suivi Frédéric Kwamba, Nikes Kibel-Bel-Oka, qui estime qu'il y a des pas, n'est-ce pas, qui ont été franchis, même si la lutte est loin de se terminer aujourd'hui. Parmi ces pas qui ont été franchis, il y a toutes ces lois que nous avons, donc sur le plan normatif, le Congo est bien doté, mais on se rend compte que cela n'a pas d'impact, n'est-ce pas, dans la vie quotidienne des femmes dans ces pays. Est-ce que le problème n'est pas aussi l'homme qui peut-être n'a jamais, l'homme congolais qui peut-être a du mal à considérer la femme comme son semblable, comme son égal, et qui doit aussi jouir des mêmes droits que lui. Est-ce que ce n'est pas ça le problème?
Oui, alors moitié, mais aussi le fait que nous sommes liés à nos us et coutumes. Nous sommes liés à des coutumes traditionnelles qui, parfois, mettent toujours l'homme au-dessus de la femme, alors que nous devons former une complémentarité qui fait vivre la famille. Je prends par exemple, il y a dans des villages où le mariage est viratique, c'est-à-dire que quelqu'un qui meurt, on prend une femme pour donner succession à l'homme qui reste. On dit non, il faut qu'il encadre les enfants. Mais la fille est peut-être beaucoup, beaucoup moins âgée, la femme est beaucoup moins âgée que l'homme qui est resté veuf. Voyez, des coutumes comme ça, la femme n'a pas fait son choix. Il y a toutes ces questions-là qu'il faut vulgariser. Nikes l'a très bien dit encore une fois. C'est des questions, oui, sur le plan des textes, nous les avons. Il y a une avancée significative. Nous avons aussi des institutions, la représentation des femmes. Mais il faut aller au fond dans nos vies et coutumes, dans nos villages. Il y a encore des choses pour lesquelles nous devons d'avenir. Donc c'est des pratiques comme ça qu'il nous faut, nous, regarder en face pour dire qu'il faut laisser les choix. Même s'il y a une explication d'encadrement sur le plan coutumier, je ne prends que cet exemple-là, mais il faut franchement regarder notre culture, l'évolution de la société, pour dire qu'il y a un certain nombre de traditions que nous devons totalement bannir. Alors, une autre chose, la femme congolaise doit comprendre aussi que la journée, le 8 mars, ce n'est pas la journée des pagnes. Alors, en République démocratique du Congo, ça devient la journée des fêtes. Non! C'est la journée où l'ensemble du monde entier s'est rendu compte que nous, les hommes, nous avons abusé des femmes. Nous abusons des femmes, même en Europe, ici, les femmes ont commencé à travailler, à avoir un compte en banque, je crois, aux années 50, 45 ans. Donc, il y a évolution, c'est le jour où nous nous sommes rendus compte que nous nous comportons mal envers nos semblables femmes.
Mais à Kinshasa, en RDC, ça devient quasiment la journée de paille, la journée de fête, alors que ce n'est pas le cas. Il faut se questionner. Très peu de femmes s'engagent politiquement. La discrimination se passe à partir du parti politique. Les femmes ne s'engagent pas. Est-ce qu'on ne peut pas rêver de dans ce pays-là une certaine Marie Le Pen et une certaine Giorgia Meloni qui devient président de la République?
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Frédéric Kwamba, Nikes Kibelbel Oka et Timothée Tchambo Soucha. Merci aussi à Pierre Diassino qui était à la technique avec la participation des Dieudonné Nyangasa à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. Nous allons nous séparer avec Linia. Linia, cette composition de Nok Zamwangana dans l'orchestre Zaiko Langalanga et on se retrouve le samedi prochain.
Mama, timbala maboko, po ambasika biyango pesa.